par Tamara Doyen, et la langue nazie déterminée par Heil Hitler, et les contemporains de 4 ans, contrairement aux plus récents, avaient encore le droit de dire dans Henri Dumas.
Alors, le côté mentalement, donc, pour moi, c'est le début d'une période de brassage culturel et d'instabilité politique. Semble-t-il, dans ce contexte de lutte permanente et d'incertitude générale, émerge une nouvelle culture, le christianisme. Oui, c'est une culture. Une religion aussi. En opposition à la différence romaine, le christianisme apprenait l'idéal de la fête spirituelle et du renoncement au monde matériel. Et d'après ce que j'ai vu, le rire n'est pas bienvenu, le sourire toléré. Mais soyons sérieux, on aurait pu faire un problème de sérieux. Et il y a un parallèle à explorer avec le bouddhisme et le taoïsme, mais est-ce qu'on ne peut pas rire dans le bouddhisme?
Néanmoins, le scandale fut retentissant.
mais ce n'est pas venu. Entre 1431 et vers 1431, un auteur inconnu a rédigé la farce de Maître Pavelin. Là aussi, on en a entendu parler, c'est une comédie pas bien identifiée, qui là joue sur ce registre du trompeur trompé, et qui donne évidemment tout de suite à l'avant-goût de la comédie de Molière, et plus par la suite.
Voilà, et en 1508, Erasme de Rotterdam, ça donne un exercice de cuisance d'ironie en rédigeant l'éloge de la comédie. Là, il reprend la technique du jeu de mots, de l'allusion, des questions et d'astuces volontaires pour semer le trouble dans l'esprit du lecteur. Et en voyant la vie, le train de vie de la curie romaine et des papes et des évêques présents et visibles, il se posait la question, si l'héritière du Christ cherchait à limiter sa vie, la vie du Christ, sa pauvreté, sa sagesse, sa croix, ne serait-il pas le plus malheureux des hommes? On croirait ce crabe de retour. Erasme déclare également que fuir de tout et de tout ce qui se fait et se dit est sot. Mais ne rien dire et ne rire que bien est franchement indécis.
Oui, je pense que cette lecture est intéressante. Un rire de tout ce qui se fait, c'est bien sûr de rire de rien, c'est avec qui il vient dire. Alors, oui, je le dis à la fin. En 1532, était publié Point du très renommé Pantagruel, suivi de Si inestimable du grand Gargantua. Père de Pantagruel, le Pantagruel, le nom du père en 1534. Alors, rappelez bien, je pense que maintenant c'est plus un mot d'expression courante, hein. France Bayardiste, le salon réjouissant, le bon joyeux rire populaire, Pantagruelique, et je pense que c'est dans tous les esprits, dès qu'on parle de Pantagruel, on pense à Pantagruel et à l'esprit ramblésien. Et donc, François Rabelais tente, par cet ouvrage, les fois inédits de concilier la culture savante avec les coutumes populaires. Puisque bon, il y a là-dedans toute une symbolique, hein, on va rentrer dans le détail, je ne vais pas vous rentrer, mais enfin, c'est beaucoup plus profond que ça ne paraît, et en même temps, c'est de franche rigolade. Il a réussi à mêler les deux, pour nous donner à rire tout en nous donnant à réfléchir. Et on pourrait encore l'appliquer aujourd'hui sans doute. Dans un élan humaniste de naissance, je cherche à renouveler moins l'idéal que l'idéal philosophique sous l'éclairage de la pensée antique renouvelée. Dans le texte de schisme religieux de Saint-Barthélemy, l'acquisition connaissante, il n'y a pas de place pour le divertissement et encore moins pour le rire, mais Rabelais a réussi, avec son pantalon, avec son garde-monde, à faire passer les deux.
Et il faut dire aussi qu'à cette époque-là, peut-être l'attention de tous les contemporains était éveillée par un sujet complètement différent, était la découverte du nouveau monde. Et il a fallu attendre le XVIIe siècle pour voir éclore véritablement, certainement à l'abri d'une certaine stabilité politique retrouvée et une certaine structuration du monde et des esprits. Et de sa danse satirique et humoristique d'un Jean de La Fontaine, d'un Bossuet, de Boileau, de Molière. En 1764, Boileau écrit une magnifique satire, Le Chagrin des Coiffés, où il épingle un ennemi littéraire de Corneille, qui était nommé Chagrin.
Hommage au désespoir, aux perruques. mamie n'a plus longtemps duré que pour tant d'infamie. N'as-tu trompé l'espoir de tant de perruquiers que pour voir un jour flétrir tant de lauriers? Nous sommes là dans la parodie, bien entendu.
De son côté, Spinoza, en Italie, lui, vers la fin du XVIIe siècle, s'est donné à une analyse affinée du lien de cause à effet et du lien fait de Dieu. Il nous dit, je cite, « Ce n'est point parce que je me réchauffe que je suis content, mais je suis content que je me réchauffe. » En d'autres termes, donc, je ne suis pas heureux parce que je ris, je suis heureux de pouvoir le voir.
Pour ne pas trouver dans des volières, hein, on a dit proclame. Alors il faudrait beaucoup de temps et beaucoup de savoir. On n'a pas le temps et on n'a pas la prétention d'un temps de savoir. Mais la renouée avec le comique ironique des Grecs pour développer la comédie, et il a finalement touché un peu à tous les gens. Et grâce au roman royal, il invente aussi la comédie ballet, où les danseurs participent au spectacle. C'est là que c'est vers 1764. Bon, quand on a développé son Molière, chacun connaît toute l'œuvre ou beaucoup de Molière. Il combat les vices de son temps avec la vertu de la caricature. Et en ce faisant, il nous fait beaucoup rire, y compris nous-mêmes. Dans le grand esprit antique, son jeu le plus cher est d'entrer comme il faut dans le ridicule des hommes.
Voltaire, de son côté, se situe dans le sol. En 1760, il exprime dans une lettre à Madame Desbinet une pensée bien plus pessimiste. Je cite, il nous dit, ce monde est une guerre, et celui qui rit aux dépens des autres est victorieux. Je prends parti de me moquer de tout, de rire de tout. Ce régime est très bon pour la santé, et j'espère qu'il me guérira. Le seul parti raisonnable dans un siècle ridicule, c'est de rire de tout. Voilà l'attitude de Voltaire. Il y a comme un parfum de Diogène cynique.
Oui.
Ah oui. Vers 1800, Emmanuel Kant a développé une définition du bonheur. C'est peut-être une des premières. Selon lui, le bonheur vient d'une attente qui se résout subitement en lui.
Donc, Schopenhauer, Martin Schopenhauer, dans les aphorismes sur la sagesse dans l'infini, dans les années 1800, c'est la crise des 1780-1860, il a conclu que le rire et la gaieté, le rire et la gaieté, sont les seuls à nous apporter un bénéfice immédiat. Psychothérapie, la même, eux seuls, le rire et la gaieté, sont pour ainsi dire, l'argent content du bonheur. Ça fait des voix rire. Tout le reste n'est que billets de change. Et Schopenhauer en déduit que c'est ça le bien suprême pour des êtres dont la réalité a la forme d'une actualité individuelle entre deux temps infinis. En d'autres termes, parce que là, ça fait partie. Hein. Qui c'est-à-dire constamment l'instant du rire, détient la plus grande richesse que l'être humain peut atteindre dans le temps de sa vie, qui fait saisir consciemment l'instant du rire. Dans mon parent garde 1851, ah, ça se gâte un peu, hein. Son rire se teinte de désespoir. Je ne puis m'empêcher de rire. Je ne puis m'empêcher de rire. Quand je vois des hommes réclamer sur un ton assuré et arrondi la continuation à travers l'éternité de leur misérable individualité. Tout le très bien.
Quelques temps plus tard, c'est la danoise, Sir Kierkegaard, qui s'occupe à nouveau de l'ironie. Il la considère étant une réflexion détachée de l'immédiat. Comme nous sommes chez les Grecs, où tout est fondé sur le narratif et sur le recul. Dans les miennes philosophiques, il résume que le comique est partout où il y a de la contradiction. Selon lui, l'humour est de la conscience d'une situation de disproportion. Alors là, nous sommes dans une analyse bien précise et détaillée de ce que peut être le comique.
Donc, sur ce sens, simplement pour évoquer, puisque la 19e et 20e, on passe au Godville, et le Godville annonce le cadre de boulevard. J'ai dit boulevard, pas le boulevard, hein, donc il y a peut-être boulevard, je ne sais pas, mais là, c'est derrière le sud qui s'étrend. Alors, c'est un boulevard qui connaît une formidable expansion depuis la Révolution française. Bon, on pourrait en citer, mais la biche Fédo et la vitrine sont connues de tout le monde. Et là, c'est vraiment le cas de boulevard. Et puis, ça a été repris à la télévision. On avait aussi, là ce soir, on avait beaucoup de pièces de théâtre qui sont du théâtre de boulevard, avec toujours à peu près le même schéma de situation vocale, du mari trompé, du mari avec la femme d'avant, les gens qui rentrent par une porte, qui sortent par l'autre, enfin, tout ce qu'on connaît, toutes les vitesses de ce comique qui nous fait rire. Faut pas bouger son désir. Et ensuite, bien sûr, ça a été les humoristes. Les comiques de tout genre, dans la grande tradition, effectivement, de cette humanité. Et puis, moi, je fais quand même de citer Fernand Reynaud, et puis, ce que je considère comme le maître du maniement du mot, Raymond DeVos. Mais on ne peut pas en dire plus, parce que ça, on pourrait développer, et c'est plus simple.
Nous sommes encore dans les années 1920, où, dans les propos sur le bonheur, Alain dit que le physiologiste connaît bien la raison pourquoi le rire nous change. Alors là, on voit déjà une trace de psychanalyse bien affirmée. Donc Alain fait l'analyse. Il descend aussi profond le rire. Le rire descend aussi profond que le bâillement et, de proche en proche, saisit la gorge, les poumons, le cœur. Aucun médecin ne trouverait dans sa boîte à remède de quoi agir si promptement. À moins de faire des médecins sans remède.
Oui, alors, effectivement, les psychanalystes aussi, mais on ne va pas rentrer dans l'univers de la psychanalyse, où il faudrait une nuance spéciale. Simplement, on a compris qu'en ce moment, dans le mot d'esprit était rapport avec l'inconscient, en 1905, vient la conclusion que l'humour, et la contribution, l'humour et la contribution apportée au comique par l'intermédiaire du surmoi. Alors après, pour l'émission, voir notre psychanalyste, qui est présent dans la salle, Claude Louis, il fait rire d'un mot princière. Alors je reprends. Le mot d'esprit n'est pas de l'intention. L'humour et la contribution apportée au comique par l'intermédiaire du surmoi. Il fait du rire, la psychanalyse ne le voit pas. Hein. Il fait du rire d'un mot princière. Parallèle à la voix royale, le rêve menant à la connaissance de l'inconscient. Selon lui, l'humour est un moyen de défense qui fait triompher le moi et le principe de plaisir. Je vous lis comme tel.
Voilà, on ne rigole pas avec ce qui va être bien connu. La psychologie, de son côté, a décortiqué un peu plus scientifiquement le rire, ce phénomène dans son ensemble, et on a tiré quatre principales caractéristiques. La première est l'expression de supériorité qui se traduit à travers le rire, un certain rire. Le second est une expression d'agression qui devient, par le rire, socialement tolérable. Ensuite, la troisième caractéristique est une allusion sexuelle qui ne
de bien recevoir que par le lien, ce qui sera important pour autrement. Et la quatrième, l'expression d'une défense contre la réalité, qui s'exprime dans la dérision et l'absurdité, qui a tout au long du XXe siècle, si j'ose dire, éclos particulièrement.
Quand on parle de philosophie du rire au XXe siècle, on pense à personne. On va simplement citer une phrase, là aussi, ça serait beaucoup trop long. Personne n'a constaté un effet à la question du rire, de rire. Et on représente sans doute la forme exhaustive de toutes les réflexions sur le sujet. En étudiant les diverses catégories du comique, personne réussit à démontrer, avant l'évident, la logique, comme des attentats ici, qui déclenche le rire.
Là, c'est effectivement une approche littéralement scientifique que seul le paquet de textes pouvait produire. Beaucoup plus récemment, il y a Claude Laurent qui avait le constat, un constat qui résume parfaitement l'ambiguïté du pouvoir. Lui, il nous dit que les hommes ont peur de rire parce que le rire retranche, exclut, agresse. Les hommes ont besoin de rire parce que le rire détend, désarme et protège.
Oui, donc là, le droit, tout bien du droit, nous montre bien que le rire a de nombreuses facettes, hein, comme je disais tout à l'heure, parce que le bienveillant, le rire des douceurs. Et pour quand cette anthologie que nous avons dans notre propos, nous revenons d'un mot à Aristote qui dit que le vrai musicien, et celui qui se plaît à la musique, comme le vrai politique est celui qui se plaît à la politique. Et pour prolonger sa pensée, le vrai rieur est celui qui se plaît à rire, celui qui sait accueillir cet instant de vie infiniment maître, complexe et riche, qu'est l'éclat de rire. Alors ma foi, il nous reste, nous avons fini, nous avons simplement un souhait de vous faire un petit panorama du tout à l'heure. Il nous reste à espérer que la suite du colloque nous permettra effectivement d'éclater de rire. Et le soleil et moi vous remercions de votre attention.
Je me permets également d'attirer votre attention sur le fait que nous avons préparé une petite bibliographie avec l'aide des librairies de Michigan et l'aide du secrétariat de l'Université indépendante pour vous conseiller quelques ouvrages qui nous ont paru particulièrement intéressants. Vous pouvez l'emporter, c'est une feuille jaune avec des titres et voilà, avec le listing des livres qui vous paraissent intéressants.
Avec un respect extraordinaire de l'horaire.
Wow.
Les visiteurs, oui, ça mérite des visiteurs.
Je voudrais remercier infiniment Claude et M. Ursula, c'est un meilleur travail. Je sais qu'ils ont passé deux heures pour aider à cette anthologie de rire en l'espace de 3 quarts d'heure. Bravo! Une demi-heure. Et donc, encore merci de tout ce travail, de nous avoir fait voyager à travers les siècles pour encore mieux comprendre le mieux. Alors maintenant, voilà, c'est oui, très bien. Et on va demander notre temps Michel Bourri, qui a bien voulu venir. J'ai assisté, hein, sachant que Michel est tout à fait qualifié pour nous parler du grand Honoré de Lévié. J'espère que tous les fans, c'est un moment, on n'arrive pas à définir exactement comme la. Le multiple bassette. Et Michel Bourri donc a bien accepté de nous voir venir nous présenter quelques éléments à partir de diapositives qui sont transformés en CD grâce à la formation. Voilà. Merci de votre présence.
Alors en effet, j'étais parti sur des diapos qui servaient quand je travaille au compte tenu du thème de l'état partout, qu'on a l'habitude d'être plus proche de l'explication technique de ce que fait un que de l'analyse d'image dans le sens humoristique. Alors, je vais apprendre deux parties, le point va ressortir, peut-être que je vais vous montrer certains exemples expliquant la façon dont vous dominez de travailler, qui se trouve dans la lithographie, et dans un deuxième temps, vous montrerez des lithographies, des gens du site, qui appuient un petit peu ce que j'aurais présenté auparavant. Alors, évidemment, au départ, ça ne va pas être très drôle de vous dire vous niez de vous donner des dates, 1808 et 1879, mais si je vous donne ces dates, c'est non pas que je vous donne une lithographie que vous niez, mais simplement pour faire sentir que c'est tout le 19e siècle pratiquement ouvert pendant sa vie, et que politiquement, je ne sais pas pourquoi, mais le 19e est quand même assez agité. Il y a eu quelques massacres, quelques révoltes, quelques changements politiques. Et donc, il y aura beaucoup de lithographies sur ce sujet. En général, c'est ce qu'on peut dire plus. Je ne suis pas à même pour faire le lien par rapport à l'histoire. Donc j'ai pris plutôt ce parti qui sera les gens de la justice, qui à mon avis sont plus faciles à comprendre à notre époque. Bon. Son siècle est donc agité, il est d'origine modeste, et à un moment il se retrouve à Paris, et très jeune, il va être ce qu'on appelle un prostitute, à savoir un clerc, et travailler dans des études, et avoir des liens avec la justice, puisqu'il apporte le courrier, l'initiative, enfin tout un tas d'éléments comme ça. En fait, Daumier va témoigner de son présent tout au long du présent, de son présent tout au long de son existence. Ces œuvres, il y a très peu d'œuvres qui portent des dates ou qui portent des signatures. Quelquefois, on trouve des initiales, mais ce qui permet de dater certains de ces œuvres, c'est qu'il y a un rapport à la politique. Justement, parce que là, vous savez, tel événement, tel problème, et c'est donc facile à ce moment-là. Il va travailler, il travaillera dans trois revues. Il y a Silhouette, Caricature et Charivari, donc là, c'est le nom que vous avez entendu au moins que l'on. Alors, il utilise des techniques très variées quand il dessine, et finalement, c'est ça sa vraie richesse. Mais donc, il vient travailler à la plume, à la mine de plomb, c'est un petit peu plus rare. Il travaille au crayon, pastel, aquarelle, lithographie pour le nouveau, et aussi peinture. En fait, c'est un artiste très, très complet. Et ce qui ressort le plus de son travail, et qui est une constante dans tout son travail, il exprime le mouvement. Et pour ça, par des traits,